Vous écoutez, on lit pour vous.
L'Alberta demande l'avis des résidents sur les services sociaux accordés aux immigrants. Un texte de Charles Delisle avec les informations d'Anne-Marie Tricky, Luna Marchais et La Presse canadienne, paru le 25 juin 2025 sur Ici Alberta. Le groupe de travail Alberta Next, lancé récemment, visant à discuter de l'avenir de la province, organise des consultations publiques pour sonder les inquiétudes des Albertains. Parmi les questions qu'il pose, les services sociaux accordés aux immigrants retiennent une attention particulière de certains résidents. Le site Web du groupe de travail pose 6 questions sur divers sujets comme les pensions, la Constitution et l'immigration. Pour répondre aux questions, il faut d'abord visionner une vidéo qui lie l'immigration récente aux problèmes de logement, de chômage et de tensions sociales. Une des questions sur l'immigration. Le gouvernement provincial devrait-il refuser de fournir des programmes provinciaux aux non-citoyens et aux résidents non-permanents vivant en Alberta? À moins qu'il n'ait obtenu un permis d'immigration approuvé par le gouvernement de l'Alberta? Selon Alphonse Ndemaola, directeur général de Francophonie canadienne plurielle, FRAP, le sondage est décalé face à la réalité actuelle. « Ce n'est pas un sondage, c'est de la propagande », estime-t-il, en faisant référence à la vidéo présentée par le groupe de travail et en ajoutant qu'il voit un aspect politique dans la manière dont la question est présentée. Dans une déclaration du bureau de la première ministre albertaine, on peut lire que la province souhaite que le nombre de nouveaux arrivants entrant dans le pays chaque année soit viable. Tous ceux qui souhaitent venir en Alberta doivent s'engager à respecter les valeurs canadiennes, selon le bureau de la première ministre albertaine. Alphonse Ndemaola, de la FRAP, estime qu'il y a beaucoup de changements qui auront lieu au cours des prochains mois avec un nouveau gouvernement fédéral en place. Mais on ne peut pas désigner une cause unique si nous sommes dans la difficulté avec le logement, si nous sommes dans la difficulté avec la santé. Une vidéo non neutre. Selon la sociologue et spécialiste en sondage à l'Université de Montréal, Claire Durand, la vidéo montrée juste avant les questions est absolument et totalement non neutre. Ce n'est pas une tentative d'aller chercher l'opinion de la population. C'est une tentative de voir jusqu'à quel point on peut convaincre, estime-t-elle. Claire Durand ajoute que, en soi, il n'y a rien de mal à ce qu'un gouvernement veuille consulter la population, mais c'est une question de crédibilité du gouvernement. À la suite du dévoilement du groupe de travail mardi, la première ministre, Danielle Smith, a déclaré que l'objectif de ce groupe est de mettre la population aux commandes. Le groupe de travail donnera l'occasion de décider comment l'Alberta peut devenir plus forte et plus souveraine au sein d'un Canada uni. Le groupe de travail Alberta Next consulte les Albertains sur nombreuses questions, dont une police provinciale, un fonds de pension albertain et la Constitution canadienne. C'était « L'Alberta demande l'avis des résidents sur les services sociaux accordés aux immigrants ». Un texte de Charles Delisle avec des informations d'Anne-Marie Tricky, Luna Marchais et La Presse canadienne, paru le 25 juin 2025 sur Ici Alberta.
« L'amour livre. Une chronique de Suzanne Jacob, parue le 21 octobre 2024 dans Les Libraires. Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait. Livre consubstantiel à son auteur. Montaigne. Aujourd'hui, la revue Les Libraires me pose une question. Écrire est-il une façon d'aimer? Je voudrais bien y répondre sans mille détours comme auteur de mes propres livres, mais je ne peux pas échapper à ce que j'ai toujours fait. Il m'a toujours fallu changer d'abord les questions en de nouvelles questions avant de dégager ce qui me semble une réponse à peu près juste. Je ne sais pas pour vous, mais ça se passe toujours comme ça dans ma tête. C'est la raison pour laquelle je ne fais jamais de test objectif pour découvrir certains aspects de ma personnalité qui m'auraient échappé, et je ne réponds jamais aux sondages. Voyez comme je suis. Incapable de répondre à une question par oui ou non, et encore moins par j'aime, j'aime pas. J'ai connu une personne femme qui avait passé le test d'estime de soi de Rosenberg parce qu'elle se soupçonnait de ne pas s'aimer du tout. Elle avait obtenu le score en dessous du plus bas de tous les scores. Or, elle avait déjà, avec si peu d'estime de soi, écrit 2 pièces de théâtre, des milliers de rapports et de mémos comme attaché politique des ministres LB et F. McD à Ottawa, ainsi que des poèmes et des lettres d'amour à l'adresse de ses amoureux et de ses enfants et petits-enfants, et poursuivi des études en histoire à l'Université d'Ottawa sur le bilinguisme anglais-français tel qu'on le pratiquait au début de la colonie Canada. Puis, elle est partie en quelques heures d'un AVC, après avoir prouvé hors de tout doute qu'écrire était une façon d'aimer beaucoup les autres, même si on ne s'aimait pas soi-même. J'ajouterai que ce dont nous étions persuadés, elle et moi, et bien d'autres avec nous, c'est qu'une des meilleures façons d'être aimé, c'est de lire, puisque c'est par la lecture que nous avons été accueillis en ce monde. Dans mon essai « La bulle d'encre », j'ai évoqué cette première histoire de lecture qui consiste à être un texte-visage. Un enfant arrive et son univers entier, dès ses premières heures et ses premiers jours, se met à la lecture amoureuse des traits et des expressions de ce visage. L'enfant que nous avons tous été, dès la naissance, a été aimé, adoré, adulé par un lectorat composé d'au moins une ou deux personnes. Au cours de cette lecture aimante et soignante, l'enfant découvre que certaines réponses de sa part, une risette, un sourire, un cri, un soupir, une larme, une grimace, réconfortent son lectorat et même l'émeut ou le fait rire aux larmes. Et au fil des jours, qui deviennent des mois, l'enfant lu devient peu à peu l'enfant lecteur. Lire, c'est une histoire d'amour libre, sans obligation de part et d'autre de décliner une identité ou de s'y tenir à tout craint. On peut s'identifier même à la lune, même au néant, être un, être une, puis tous et tout à la fois. Vous pouvez être l'individu ou et la foule. Vous pouvez quitter le livre sans qu'il vous coure après, vous pouvez le harceler, lui faire dire ce qu'il n'a jamais dit, le faire mentir. Il ne vous poursuivra jamais. Il n'attend rien d'autre de vous que ce que vous lui donnez. Vous pouvez lui confier des choses que vous ne confieriez à personne. Il ne vous trahira jamais. Je me souviens si bien de mon premier amour. Il s'appelait Thierry Tête de Fer. J'avais 11 ou 12 ans. Je ne savais pas que les livres avaient des auteurs et des auteureux. J'aurais été bien emmerdé de rencontrer M. Jacques Van Harp, un Belge qui écrivait pour la collection Signes de piste. Quand on tombe en amour dans la cour d'école, on ne veut pas forcément rencontrer les parents de l'objet aimé. Ah, ce Thierry, Il était plus courageux, brave et secret que toute la cour d'école. Je lui avais confié quand même beaucoup de secrets, et je ne voulais pas que mes sœurs le rencontrent, mon Thierry, ni le lisent, mon livre. J'ai été fidèle à cet amour dont j'avais inventé la réciprocité en donnant son prénom à mon fils, qui est bien sûr plus brave et secret que... Il y a plein de livres, plein d'auteurs et d'auteures, et de personnages dont j'aurais fait la rencontre et dont je ne me serais jamais senti aimé parce que je ne serais jamais parvenu à syntoniser leur voix, ou la voix de la réelle présence qui émane de toute œuvre. Si on n'a pas le choix, si on est vraiment dans l'obligation de lire ces livres qui ne nous aiment pas pour obtenir son passeport ou son certificat de lecture, alors on doit découvrir les raisons pour lesquelles on n'en est pas aimé. Ne pas nous sentir ou ne pas nous savoir aimer par un livre peut nous apprendre un tas de choses sur nous-mêmes et aiguiser notre capacité à nous défendre, oui, à nous défendre contre les tentatives d'emprise sur l'arbitre de nos pensées. Ce personnage, qui est l'arbitre de nos pensées, doit absolument rester libre de son destin. C'est pour ça qu'on l'appelle le libre arbitre. Et ce libre arbitre, il doit au livre lu dans la solitude toute la solidité de sa colonne vertébrale. Quand, à peine ouvert le livre, quand, à peine passé les premières lignes, les premières pages, je sens la présence réelle m'ouvrir un espace d'écoute inespéré qui paraît tomber du ciel, tomber des nues, tomber du vide dont la vibration m'enveloppe au plus secret de ma panique, oui, je consens à tomber sous l'influence de cet amour. L'œuvre qui vous entend et qui vous écoute dans la totalité de votre être, c'est un amour inclassable. C'est le don qui est l'art. C'est le don qui a fait et fera toute œuvre d'art. La signature de l'auteur ou de l'auteureux n'est personne comparativement à la présence réelle qui espère la rencontre et la réciprocité au sein de l'œuvre, dans ses pages, dans ses partitions. C'est un amour qui s'adapte et varie avec chacune des lectures qui sont faites. Quelle puissance! Quel mystère! Quelqu'un, quelqu'une, à qui s'ouvrir. Quelqu'un, quelqu'une, à qui se confier. Vous voyez le passage « D'abord, nous faisons l'expérience d'être nourris pour passer à l'autre qui est de nourrir. » Le texte fait surgir une naissance qui déclenche cette adhésion absolue qui nous a été prodiguée pour que nous survivions à notre naissance. C'est l'entrée dans la transmission qui se joue ici, où on se met à donner comme on a reçu, à nourrir le texte à notre tour en nous ouvrant à lui, en nous confiant à lui, en lui offrant des garanties. Lorsque nous refermons le livre où nous avons trouvé quelqu'un à qui nous ouvrir, quelqu'un à qui tout confier, ce n'est pas sur des pages que nous le refermons, mais sur cette confidence de nous-mêmes. Le passage du don au contre-don nous place alors de plein pied dans la certitude de notre naissance, comme si elle se trouvait soudain sûre et achevée. C'était « L'amour-livre », une chronique de Suzanne Jacob, parue le 21 octobre 2024 dans Les libraires.
Crier dans le désert, un texte de Louise Maud Rioux-Soucy, paru le 23 juin 2025 dans Le Devoir. C'est presque cuit. La formule la plus claire de ce qui nous pend au bout du nez à force de pelleter nos responsabilités vers l'avant revient à la réputée paléoclimatologue française Valérie Masson-Delmotte. Le climat change très vite. Nous avançons lentement derrière. En fait, l'écart se creuse si fortement et si rapidement que l'humanité est maintenant en voie de ruiner ses chances de limiter les dérèglements du climat à un seuil sécuritaire. Une étude internationale indique qu'au rythme où nous piétinons dans nos efforts pour lutter contre le réchauffement climatique, nous aurons brûlé tout le budget carbone qui nous aurait permis de respecter la limite du 1,5 degré Celsius. Et ce, d'ici 3 ans, tout au mieux. En clair, nos dirigeants sont acculés au mur, et nous, avec eux. La bombe qui est dans leurs mains ne pourra plus être renvoyée au suivant. S'ils ne la désamorcent pas maintenant, elle va leur et nous exploser au visage. La nouvelle aurait dû avoir l'effet d'une bombe, justement. Elle aura fait les manchettes de plusieurs journaux à travers le monde, dont Le Devoir. Mais soyons réalistes, elle aura vite été éclipsée par d'autres mots ultra-pressants, soit une géopolitique explosive et une économie aux abois. L'humanité n'est manifestement pas douée pour affronter plusieurs crises à la fois. On l'a bien senti au dernier G7. Ses dirigeants ont été incapables de voir au-delà de ces deux crises. Non seulement ils s'y sont cantonnés, mais ils n'ont même pas su parler d'une même voix là où l'urgence commandait pourtant un front uni. L'Ukraine, la Russie, Gaza, Israël et l'Iran. Plus largement, nombre de dirigeants sur la planète subissent les pressions climato-sceptiques du gouvernement Trump et de ses émules. Plusieurs même y cèdent. En définançant des programmes de recherche pourtant essentiels ou en rouvrant des filières controversées sur lesquelles ils avaient mis une croix au nom du climat, par exemple. Le Canada n'y échappe pas. Lui, qui n'est déjà pas prêt pour affronter la crise climatique, a remis au goût du jour les douloureuses conversations nationales autour des pipelines afin de répondre à l'absurde et dangereuse guerre tarifaire de Donald Trump. Plus dangereux encore, le projet de loi C-5, passé sous le bâillon par le gouvernement de Mark Carney, pourrait renverser des années de jurisprudence en matière d'évaluation environnementale, cela au moment même où il faudrait resserrer la vis. Aux prises avec des finances publiques déprimées, le gouvernement Legault aussi n'est visiblement pas insensible au chant alarmé des sirènes financières et politiques. Évoquant une nécessaire prudence dans les circonstances économiques et géopolitiques qui sont les nôtres, il a d'ailleurs annoncé jeudi avoir très légèrement réduit ses ambitions dans la mise à jour de son plan vert. Ce « très peu » s'ajoute à un « déjà pas assez » qui va fatalement poursuivre le Québec, selon des experts. C'est fâcheux, car il viendra un temps, et ce temps est plus proche que jamais, où il n'y aura pas de retour en arrière, pour le Québec comme pour le reste du monde. Pour le climatologue d'expérience Christophe Cassou, il est plus que temps d'écouter les scientifiques si l'humanité veut pouvoir espérer traverser cette crise qui finira par les rassembler toutes. Climat, biodiversité, c'est deux phases d'une même pièce. Ce n'est pas une question de budget. On ne s'adapte pas à cet effondrement, on meurt avec. Parce qu'on est lié à cette biodiversité, explique-t-il dans un entretien accordé à l'Indépendant. Les coûts de notre attentisme collectif ne sont pas qu'immenses. Il crée un effet domino qui finira par toucher toutes les sphères de notre quotidien. Avec un climat parti en vrille, notre monde coûtera fatalement plus cher en assurance, en maintien, en réparation et en reconstruction, alouette. Mais il gagnera aussi en instabilité, avec plus de conflits, plus de guerres et plus de migrations. Il sera de moins en moins habitable avec des indices de santé et de bien-être à la baisse, y compris chez les générations montantes. Les changements climatiques vont aussi réduire la capacité des humains de la planète à se nourrir. Une étude publiée dans Nature calcule que même en adaptant nos pratiques agricoles, les rendements caloriques mondiaux de 6 cultures majeures, blé, maïs, riz, soya, sorgho et manioc, seront inférieurs de 11 % à 24 % d'ici 2100. Chaque degré Celsius supplémentaire de réchauffement planétaire réduira la capacité mondiale à produire de la nourriture de 120 kilocalories par personne par jour. À 3 degrés Celsius, ce serait comme si chaque personne sur Terre renonçait soudainement à son déjeuner. Il y a bel et bien péril en la demeure. Il faut arrêter de marginaliser des discours comme ceux des mères au front qui nous pressent de faire de la lutte au changement climatique notre priorité. Il faut au contraire y ajouter nos voix. Nos dirigeants pourront toujours négocier de meilleures conditions économiques et géopolitiques en notre nom. Mais ils ne pourront jamais négocier avec un climat déréglé. C'était « Crier dans le désert », un texte de Louise Maud Rioux-Soucy, paru le 23 juin 2025 dans Le Devoir.
Troisième conférence internationale de l'Alliance internationale francophone. Un texte de Denis-Daniel Boulay, paru le 16 juin 2025 dans le magazine Fugue. La troisième conférence d'Égide se tiendra à Montréal du 31 juillet au 3 août prochain. Recul des droits pour les communautés LGBTQ2S+ dans le monde, dont des pays de la francophonie, financement des organismes, etc., Égide a du pain sur la planche, mais plus que jamais aujourd'hui, c'est une voix qui peut se faire entendre et aussi poser des gestes pour contrer l'homophobie et la transphobie, tout en contribuant à tisser des liens. Pour son directeur général, Michael Arnault, il faut remonter à la genèse d'Égide, qui a pour mission de briser l'isolement pouvant exister aussi bien entre les activistes que les entrepreneurs LGBTQ2S+, et les gouvernements des pays de la francophonie. Égide compte aujourd'hui plus de 200 organisations membres réparties dans 33 pays et territoires francophones, constituant ainsi pour plusieurs une force, mais aussi un ancrage et un soutien en matière de protection et de lutte pour les droits de nos communautés. La troisième conférence, qui se tiendra à Montréal cet été, accueillera des représentants, représentantes, des 33 pays membres. Selon Bruno Laprade, responsable des communications, l'année dernière, il y avait une forte représentation des pays du Sud, et l'on espère que ce sera encore le cas pour cette année. La thématique choisie est « Un regard posé sur l'avenir, transmettre, célébrer et préparer demain », peut-on lire sur l'affiche. Tout d'abord, c'est l'occasion de faire un bilan, précise Michael Arnault, et de continuer avec notre objectif principal, c'est-à-dire de connecter des activistes et des entrepreneurs qui n'auraient pas l'occasion de se rencontrer autrement. Il existe des organismes semblables, mais dont la langue est l'anglais, alors qu'Égide est en français. Égide veut ainsi renforcer le mouvement international francophone en mettant l'accent, lors de cette rencontre, sur les enjeux sécuritaires. On assiste aujourd'hui à un recul important au niveau des droits. Des pays qui durcissent leur législation, on en compte actuellement une quinzaine aujourd'hui, continue Michael Arnault, et puis on assiste à une baisse du financement à l'international des organismes LGBTQ2S+, et cette conférence prend alors tout son sens et son importance. Deux des principaux bailleurs de fonds des organismes à travers le monde ont cessé leur financement, les États-Unis et les Pays-Bas. Aujourd'hui, le Canada, qui était en troisième position pour le financement, se retrouve en tête de liste, précise Michael Arnault. Est-ce la raison pour laquelle Égide consacre sa préconférence d'ouverture à la philanthropie? Nous avons décidé d'inviter des bailleurs de fonds de premier plan, aussi bien du secteur privé que du secteur public, ainsi que d'autres partenaires, pour partager les expériences et pouvoir avoir des approches innovantes et mieux soutenir des initiatives locales, en collaboration avec le Global Philanthropy Project, qui est un de nos partenaires de la première heure avec les rapports qu'ils font à chaque année sur le financement des mouvements LGBT dans le monde, de conclure le directeur général. Plusieurs moments marqueront ces quelques jours chargés. On y abordera des thèmes variés, mais qui couvrent les préoccupations et surtout les inquiétudes actuelles. Par exemple, le fait de ne pas couper le continuum entre l'histoire des minorités de la diversité et les générations plus jeunes. Une table ronde est également prévue sur les héritages du colonialisme et la condamnation des cultures qui valorisaient des expressions et des identités de genre s'éloignant du modèle hétérosexuel. À l'autre bout du spectre se déroulera une préconférence jeunesse, lors de laquelle une cinquantaine de jeunes de différents pays se rencontreront, avec comme objectif la réalisation d'un balado et la rédaction d'un manifeste pour soutenir la jeunesse LGBTQI francophone. Couvrir tout l'arc-en-ciel de la diversité demande aussi de construire des narratifs différents pour ainsi s'opposer à la tendance des discours homophobes et transphobes diffusés à grande échelle sur les réseaux sociaux. Ces enjeux pourront être abordés lors d'une table ronde intitulée « Changer le narratif, contrer les discours anti-genre ». Au moment d'écrire ces lignes, la programmation complète et définitive de la conférence n'était pas tout à fait ficelée. Mais pour tous ceux et celles qui s'intéressent un tant soit peu à la situation des LGBTQI, aussi bien dans les pays francophones que dans le monde, la conférence d'Égide permettra de dresser un portrait de l'état des lieux et peut-être d'apporter des pistes de solutions, en plus d'affirmer toujours et encore la présence et les voix des minorités. Reste une inconnue. Plusieurs invités viennent de pays qui nécessitent un visa pour se rendre au Canada. Nous avons le soutien et la collaboration du ministère des Affaires internationales, mais en bout de ligne, la décision d'émettre ou non un visa relève du pouvoir d'un agent d'immigration dans le pays d'origine, précise Michael Arnault. Espérons que les agents chargés d'émettre les visas feront preuve d'ouverture. C'était troisième conférence internationale de l'Alliance internationale francophone. Un texte de Denis Daniel Boulay, paru le 16 juin 2025 dans le magazine Fugue.